Bonjour à toutes et à tous, Madame Bachelot. Merci beaucoup pour votre présence à la librairie Mola et pour une des toutes dernières rencontres, je crois, de la saison 2011-2012. Vous avez vu que la température bordelaise est assez élevée. Hein, et j'allais dire peut-être que ça vous change de la douceur angevine. Puisque vous n'êtes pas né angevine, mais angevine d'adoption, je rappelle que votre papa, Jean Arquin, a été député du Maine-et-Loire. Il a d'abord commencé sa carrière comme parlementaire, comme député suppléant d'Edgar Pisani, il faut le rappeler, en 1968. Votre papa et votre maman étaient dentistes. Si je me souviens bien, la permanence parlementaire de votre père était rue Turpin de Crissé, pas très loin de la rue du Haras.
Comment vous savez tout ça?
Ah, dirai plus tard. et votre père a été donc élu député sans discontinuer en 73, 78, 81, 86. Puis pour la petite histoire, je crois qu'il a même été... Après votre assistant parlementaire ?
Exactement, voilà. Bénévole.
Hein. Voilà, bon, bénévole, voilà. Pourquoi je parle de votre papa ? Tout le monde connaît votre carrière et votre parcours politique, Madame Bachelot, mais vous-même avez été élue pour la première fois en 82 conseillère générale, je crois, d'un canton du département de Maine-et-Loire, et puis ensuite parlementaire. En 1988, lorsque l'élection s'est déroulée au scrutin proportionnel.
Non.
En 88.
En 88, nous étions déjà revenus au scrutin uninominal.
Pardon,
en 86, le court passage au proportionnel.
Et en 88, vous vous êtes retrouvé député de la circonscription, d'une des circonscriptions du Maine-et-Loire. Pourquoi je parlais de votre papa ? C'est parce que, page 20, vous citez une phrase de votre père... qui vous disait on lui avait dit tu vas ouvrir des bouches et voir des travaux calamiteux, mais surtout n'en dis jamais de mal parce que le patient ne pensera pas j'ai eu un dentiste épouvantable, maintenant j'ai un bon dentiste, mais tous ces types sont des incapables. Et pourquoi je commence par cette citation et ce propos que vous rapportez votre père, Madame Bachelot ? Parce que, évidemment, dans ce livre, À feu et à sang, vous témoignez ce que vous avez vécu, on va dire, pendant la campagne présidentielle, aux côtés de Nicolas Sarkozy. Mais vous vous expliquez aussi sur le fait que vous n'avez pas parlé... pendant cette campagne vous avez un peu, je dis dire presque un peu hésité à dire les choses, ce qui montre que ce témoignage va bien au-delà, je crois, d'un seul ou d'un simple rappel sur des événements récents. Je crois que vous avez éprouvé le besoin de transgresser en quelque sorte cette règle un peu paternelle. J'allais dire, vous avez éprouvé le besoin d'ouvrir la bouche de dire un certain nombre de choses. Alors, page 11, je continue un peu à feuilleter le livre. Page 11, vous avez une très jolie phrase sur Nicolas Sarkozy. À propos de Nicolas Sarkozy, vous dites « Sarkozy, que je connais si bien et en qui j'ai une foi profonde ». Là, c'est là que la phrase prend une vraie portée. Il n'a rien pour lui, sauf lui-même, et tout contre lui, dont lui-même. Mais en exergue de votre livre, vous citez Churchill, « Que la stratégie soit belle est un fait, mais n'oubliez pas de regarder le résultat. » Autrement dit, il faut avoir une rationalité, comme disait le grand sociologue Max Weber, en fonction du but à atteindre. Finalement, est-ce que vous n'avez pas un peu sacrifié au malheur au vaincu ou au vae victis en écrivant ce livre, madame?
D'abord, bonsoir à tous et à toutes et merci d'être très nombreux. C'est vrai qu'il fait très chaud à Bordeaux, mais ma foi, ce n'est pas désagréable après les brumes parisiennes de ce matin. Oui, écrire ce livre s'est révélé pour moi une ardente nécessité. Parce que j'avais le sentiment... après la période de crise que notre pays avait traversée et traverse toujours, que la politique était en train de changer et que j'étais dans le ventre du sous-marin et que le témoignage que je voulais apporter était nécessaire. Bien sûr, dans cette période pour l'histoire, d'autres écriront des livres qui sont des livres d'historiens, de philosophes, de politiques, de journalistes. Moi, j'ai revendiqué un témoignage qui est un témoignage de subjectivité et d'instantanéité. Parce que j'étais persuadée que nous allions perdre cette campagne présidentielle.
Pardon, à partir de quand avez-vous cette
conviction du début de la crise.
Dans votre livre, hein, qui est un journal.
À partir du début de la crise, en 2008, je me fais la réflexion que tous les gouvernements européens, les uns à la suite des autres, sont balayés, qu'ils soient de gauche ou de droite, parce que l'opinion publique crédite, évidemment, ou plutôt débite ses malheurs, ses anxiétés aux gouvernements qui sont en place. C'est assez normal, on ne saurait le reprocher à l'opinion publique, on ne saurait le reprocher aux électeurs citoyens, aux citoyens électeurs. Ensuite, il m'apparaît que la dernière élection d'un président de la République socialiste date de 1988, fait donc un quart de siècle, et qu'il y a dans une démocratie normale, apaisée, une sorte de houle d'alternance, et que cette houle d'alternance devrait nous être défavorable. Et je me fais quand même la réflexion que le Parti socialiste, de façon volontaire ou involontaire, nous a fait deux cadeaux royaux, sans jeu de mots, dans l'élection de 2002 et de 2007, puisque en 2002, coup de tonnerre, comme l'a dit l'excellent film sur cette affaire, c'est Jean-Marie Le Pen qui est au deuxième tour et bien entendu les socialistes se rallient à Jacques Chirac dans l'idée d'un front républicain. Et en 2007, et évidemment l'élection de François Hollande donne tout son sel à cela, objectivement le Parti socialiste va scier la branche sur laquelle est assise avec beaucoup de difficultés Madame Ségolène Royal, et que François Hollande va finalement tout faire pour qu'elle ne soit pas élue pour des raisons qui relèvent de sa stratégie personnelle de carrière, mais aussi pour régler des comptes dont on connaît maintenant les contours et qui d'une certaine façon continuent, comme la guerre par d'autres moyens. Et donc, on voit bien que ces deux cadeaux absolument impensables, il n'y a pas de raison qu'ils continuent à nous les faire. Donc pour ça, je suis persuadée que nous allons vers une défaite. Et je dis que, bien sûr, on a signalé un certain nombre d'erreurs de Nicolas Sarkozy, en particulier dans ses comportements. Je les ai sentis moi-même, et même dans notre cœur de cible, de gens de soutien, militants ou sympathisants. Mais je pense que C'était surmontable à ce moment de la campagne. Donc voilà, je suis persuadée de cela, je suis persuadée que tout cela va être un séisme extraordinaire dans notre famille politique. Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous n'avons pas réglé un certain nombre de questions idéologiques et que la création de l'UMP n'a pas réglé ces questions-là, et que ce travail est à faire, et que la défaite va être suivie par ce travail de, pas de reconstruction, mais de construction de notre famille politique. Et je veux pouvoir faire ce travail assez tôt. Les livres vont être très utiles, les livres qui vont être écrits dans 2 ans, les livres de gens beaucoup plus savants, beaucoup plus informés, beaucoup plus expérimentés que moi, mais ils seront inutilisables.
Alors, quand on vous lit, encore une fois, je précise, enfin, je dis aux gens qui nous écoutent, que vous tenez une sorte... Enfin, c'est un carnet de route.
Voilà.
Donc, on voit apparaître un certain nombre de dates. Hein, c'est pas un journal continu. Vous évoquez des moments que vous avez pu vivre dans une journée, et puis faites une réflexion plus générale. On a le sentiment que... vous voyez en Nicolas Sarkozy... un véritable champion politique. Hein, vous avez des phrases, une phrase d'ailleurs tout à fait passionnante. Hein, vous dites que il a une capacité à être présent, à réagir. Bon, extraordinaire. Vous d'ailleurs, parfois vous comparez avec Jacques Chirac. Encore aujourd'hui d'ailleurs dans Sud-Ouest, en répondant aux questions toujours très pertinentes de Bruno Dive, vous dites que finalement Nicolas Sarkozy vous a laissé une grande autonomie. Hein, vous avez voilà. Bon, dans le livre, vous dites qu'il était par contre autocentré, envahissant et qui nie les autres ou les oublie. Ça, c'est page 169.
Hein, bon. C'est vrai aussi.
Donc voilà, on voit qu'il y a un côté un peu.
Mais moi, j'ai bénéficié peut-être d'une considération
particulière.
Et alors, quand on marche sur les pieds, en général, ça ne se passe pas très bien.
Et ça s'entend vite. Bon.
Oui, ça s'entend vite.
Est-ce que vous pensez qu'un autre que lui, comme candidat, puisque la question s'est posée, vous avez évoqué, d'ailleurs dans le livre, vous évoquez le dialogue en disant qu'il faudrait peut-être trouver quelqu'un d'autre pour se représenter, il aurait peut-être davantage de chance, justement, pour éviter le choc de la nouvelle candidature. Est-ce que cette hypothèse, vous l'avez plus
non.
imaginé
non. non. Non, franchement, je ne l'ai pas imaginé. Je pense que les choses étaient écrites au fond et elles auraient été écrites avec un autre candidat. Et je pense même que Nicolas Sarkozy, finalement, quand je repense à tout cela, a réussi un rétablissement à force de volonté qui est quand même assez incroyable. Ouais. Bien sûr, il s'est heurté à un plafond de verre à cause de choix tactiques de fin de campagne dont j'estime que ces choix lui ont fait perdre. Mais justement, ouais. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire et qui me laisse totalement rêveuse, c'est que véritablement, il aurait pu me faire mentir, il aurait pu, j'allais dire, invalider mes analyses de départ.
Mais vous dites aussi, il ne pouvait gagner le premier tour qu'en perdant le second.
Voilà. Ouais. Exactement. C'était une sorte d'aporie. Il fallait qu'il stigmatise, il se rigidifie dans ce premier tour et que l'opération de rassemblement du deuxième tour devenait très difficile. Je prends un exemple. Dans certains quartiers populaires qu'il avait su conquérir en 2007, la perte de l'électorat est extrêmement importante. On a des quartiers dans des banlieues parisiennes où François Hollande arrive à 85-90%. C'est des quartiers où la gauche ne fait pas 85 ou 90% d'habitude. Il y a eu une stigmatisation de certaines populations qui l'ont évidemment très mal vécu et qui nous ont rejetés.
Alors, dans le livre, vous évoquez... vous avez des mots... Vous avez, comme on dit, le verbe complètement libre. Une expression moi, qui m'a un peu étonné. Vous parlez de pseudo-allié, Jean-Louis Borloo.
Dites pas Jean-Louis Borloo quand même. Ça lui colle à la peau pour Jean-Louis.
Non, c'est parce que vous connaissez pas trop. C'est normal. La vie locale ici, mais ça renvoie à autre chose.
Si vous disiez Jean-Louis Borloo,
je dis bien Jean-Louis Borloo. Jean-Pierre Raffarin, vous les traitez de pseudo-allié.
Ah oui, j'ai été absolument furieuse, je le dis, c'est deux personnes que j'aime bien, mais qui nous ont mis un coup de poignard dans le dos épouvantable, parce que moi, ce que j'estime, et je rends hommage tout au long de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs je vois que certaines personnes disent que je critique le bilan de Nicolas Sarkozy. Je dis décidément, une fois de plus, certains politiques parlent de livres qu'ils n'ont pas lus. Je les vois jamais dans aucun lieu culturel, mais en plus, ils lisent pas les livres.
Social, ça.
Alors, finalement, je dresse un bilan extrêmement élogieux du quinquennat de Nicolas Sarkozy, et d'autant plus élogieux dans la politique sociale. Parce que franchement, alors que toutes les politiques sociales ont servi de variable d'ajustement en Europe, dans la crise que nous traversions, nous sommes le seul pays... avoir mené une politique sociale véritablement allante. La politique sociale, c'est 28% de la richesse nationale au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est 30% à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. On crée le revenu de solidarité active, on augmente de 25% l'allocation d'adultes handicapés, on augmente de 25% le minimum vieillesse. Il y avait 130 000 enfants scolarisés au début du quinquennat, il y en a 220 000 à la fin. On maintient les politiques familiales, on les augmente augmente, enfin, sur tous les secteurs de ces politiques sociales, on tient bon la rampe. Dans tous les autres pays, on sabre les budgets sociaux. Et je raconte cette anecdote. Quand j'allais au conseil qu'on appelle le conseil EBSCO, le conseil des politiques sociales, qui réunit les ministres des affaires sociales, j'avais toujours des collègues européens
à Bruxelles
ou à Luxembourg, j'avais toujours des collègues qui me disaient, écoutez, les Français, arrêtez, quoi. Vous en faites trop. Nous, on est en train d'essayer d'expliquer à nos opinions publiques qu'il faut diminuer les pensions, réduire les allocations, les subventions aux associations, vous les augmentez.
On a bien compris que vous défendez un bilan politique. Alors, c'est vrai que vous avez été en plus en charge
de ces questions-là.
Au passage, vous dites, bon, Martin Hirsch, c'était pas lui tout seul sur le RSA.
Ah bah oui, c'est la vérité. Alors, j'en viens à Jean-Louis Borloo et à Jean-Pierre Avrin.
Ils disent qu'il
faut un tournant social. Ouais. C'est vraiment un coup de poignard dans le dos, puisqu'ils accréditent l'idée, devant une opinion publique fragilisée, qu'on s'est servi de la politique sociale comme variable d'ajustement, alors qu'on a fait exactement le contraire. Et franchement, j'étais atterré. Donc c'est pour ça que je parle de pseudo-allié.
Je continue parce que alors d'ailleurs, à propos de la dimension sociale, vous me permettrez ce trait d'humour et vous me le pardonnerez, on a l'impression que la politique sociale, d'ailleurs, elle n'était pas dans tous les jeunes couples de bébés parce que le président se lève la nuit pour garder sa fille, si j'ai bien compris dans votre texte.
Ah oui, tout à fait. Un jour, je l'avais vu avec les yeux jusque-là et Julia nous a réveillés 5 fois la nuit. Je lui dis parce que t'es quand même pas dans la chambre avec ta fille. Je te rappelle que t'es quand même président de la République. Oui. Faudrait peut-être que tu te reposes, là.
En dehors de ça, on a le sentiment, quand même, quand on lit, par exemple, page 185, il y a un passage très fort. Je me permets de le lire parce que vous êtes dans un déjeuner en tête-à-tête avec François Fillon. Il fait beau, c'est le 23 mars, si j'ai bien lu. Et vous discutez, vous déjeunez tous les deux. Les fenêtres sont ouvertes sur le parc de Matignon. Et vous avez ce passage tout à fait étonnant. Le quinquennat nous a épuisés tous les deux et, pour moi, je l'avoue, fait douter de la vie politique. C'est cette lassitude qui nous conduit aussi à nous retrouver aujourd'hui ensemble, à cette distance des événements, le dos tourné au passé, le regard fixé sur l'avenir. Puis plus loin, François Fillon me fait remarquer que si Nicolas Sarkozy est réélu, c'est le 23 mars, hein, donc juste un mois avant le premier tour, il faudra payer cher tous ceux qui auront pu émettre des doutes sur la pertinence de sa stratégie, plus que jamais persuadé de ne devoir sa victoire qu'à lui-même. Alors là, quand même, vous montrez une réalité dans ce paysage un peu champêtre, sympathique. Vous êtes tous les deux avec François Fillon, qui est un ami à vous. C'est la filière Sarto-Angevine, Maine-Angevine.
Hein. C'est plutôt la filière séguiniste du gaullisme social. C'est plutôt ça, nos racines. On a deux neurones. Hein. On se situe d'abord sur un socle idéologique avant d'être sur un socle géographique.
Oh non, mais je n'avais pas de méchanceté de ma part. Il a quand même été le bras droit de Joël Lottel, c'est une figure
c'est
aussi
vrai,
de la
c'est
vie
vrai.
Politique.
C'est vrai, nos deux circonscriptions sont l'une à côté de l'autre.
Et ben voilà, merci quand même de le préciser. Donc, vous êtes mitoyen, comme on dit dans cette partie de la France. Mais la cruauté, elle est réelle, là, quand même. Que le Premier ministre dise ça du président...
Non, c'est moi qui le dis. Hein.
Il vous fait remarquer que Nicolas Sarkozy sera très dur avec ceux qui auront osé contester sa stratégie.
C'est-à-dire, quand on n'a jamais pu parler à Nicolas Sarkozy de cette stratégie de campagne, souvent des lecteurs ou des commentateurs me disent « Mais pourquoi vous ne lui avez pas dit ce que vous dites dans ce livre ?» Jamais le contact n'a été rompu avec le président de la République sur les politiques, sur la gestion du pays. Et moi, j'ai toujours eu vraiment un dialogue de confiance avec le président et il m'a laissé vraiment une très large autonomie sur ces sujets. Il me faisait confiance. Mais tout au long de 2011 et jusqu'à la fin de 2011, il ne nous disait même pas qu'il était candidat. Même pas.
Pour quelle raison, à votre avis ?
Il voulait... Maintenant, on peut décoder un certain nombre de choses. Il disait qu'il fallait rentrer dans la campagne le plus tard possible. Et nous étions, en quelque sorte, ces ministres, comme une équipe de coachs sportifs qui ne voit ses joueurs... aucune allusion à l'équipe de France de foot. Hein.
Ça, c'est une autre histoire.
Qui ne voit ses joueurs qu'au moment où ils entrent sur le terrain en short et en maillot. et qui sont sur le banc de touche, et qui y rentrent en campagne en début février. Et à ce moment-là, tout ce qu'on peut lui dire, c'est, et ce qu'on tente de lui dire, à chaque fois, il nous répond « J'ai la bonne stratégie, je vous emmène à la victoire, et je vous la garantis, oui, cette victoire. »
Ça veut dire, madame, si vous permettez, que d'autres, par contre, le voyaient.
D'autres, oui, c'est cela.
D'autres coachs le voyaient.
Voilà,
le fameux coach, trio BMG.
Voilà, le fameux trio le voyait, mais nous ne les voyions pas. Ils ne nous ont jamais consultés. Ils
alors,
nous
ce
ont
trio, c'est Buisson, Mignon et
Mignon, Guéant. Mignon.
Et Emmanuel Mignon.
Hein, Mignon, oui.
Et Claude Guéant. Hein, voilà. Et donc, vous avez vraiment, là, on sent que vous n'avez pas supporté cette dimension, ce travail.
C'est-à-dire que c'est dur pour un ministre qui gère la politique sociale de la nation, qui est confronté à des grandes difficultés et qui connaît les sujets qui concernent les plus pauvres, les plus démunis d'entre nous, les plus stigmatisés, qui tous les jours voit des gens les plus modestes, les plus fragiles, qui gère 130 milliards d'euros pour le compte de la communauté nationale. C'est un peu dur qu'on lui demande jamais son avis, oui, et qui voit des gens qui n'ont jamais vu la tête d'un électeur décider à sa place ou être consulté à sa place.
Nathalie Kosciusko-Morizet, que vous aimez beaucoup, qui a été votre directrice adjointe de cabinet, vous le dites.
Absolument.
Dans le livre.
Hein. Ça n'a pas duré très longtemps parce que le Premier ministre de l'époque me l'a piqué. Alors.
Et qui était donc porte-parole du candidat, a eu cette phrase après la campagne. Hein. C'était difficile de gagner parce que le principal conseiller de l'ombre, Buisson, était plus préoccupé de faire gagner Charles Maurras que Nicolas Sarkozy. Vous partagez cette phrase ?
Oh ben, Patrick Buisson, je le connais quand il écrivait dans Minute et qu'il s'opposait à nous. C'est un anti-gaulliste extrêmement violent, idéologique et qui a une histoire idéologique qui est parfaitement connue et claire.
En 2007, cette stratégie qui a consisté à, comme on a dit, vidanger.
Enfin, ceci étant, il souhaitait faire gagner Nicolas Sarkozy.
Oui,
c'est un
mais
mot.
En passant par Charles Maurras.
C'est évidemment l'histoire idéologique de Patrick Buisson.
En 2007, ça n'a pas été une stratégie vaine.
Ah oui, mais enfin, elle n'était pas à ce niveau.
Alors Alain Juppé, dans une rencontre avec les
au moment du parlementaire. Il faut parler d'Alain Juppé ici, bien sûr.
Non, oui, évidemment, ça c'est bah oui. Non, c'est pas 168, c'est vous qui en parlez.
C'est ce qu'on appelle le régional de l'État.
C'est vous qui en parlez d'Alain Juppé. Alain Juppé, dans une réunion des parlementaires le 14 mars, il n'adhère pas non plus aux tentatives d'incursion de notre candidat dans le camp ultra-conservateur et il dit ceci, il a complètement tort, mais nous ne pouvons pas le dire.
Bah, il rejoint aussi l'analyse que je fais dans ce livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le dire parce qu'on ne peut pas désorganiser la campagne. Elle a une architecture, elle a une logique, et évidemment, on peut le dire maintenant, on peut tirer le bilan maintenant, mais ce n'était pas le moment, à ce moment.
La description que vous faites des déplacements du président... Alors on a l'impression que c'est des visites des villages Potemkin, hein, avec un entourage un peu tout préparé, etc. Bon, c'est pas nouveau ça quand même. Vous n'allez pas croire que vous avez découvert ça en politique, les visites présidentielles préparées quand même.
Non,
quand
mais même. C'est sans doute c'est plus grave parce que dans un pays quand tout va bien et qu'on en est uniquement au décorum, finalement. C'est un peu la fête folklorique.
Ouais.
Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Mais dans un pays qui traverse une crise qui n'est pas une crise conjoncturelle, il faut pouvoir retrouver le dialogue avec les Français. Vous savez, j'ai dit souvent et tout au long de la campagne, nous sommes comme des promeneurs sous l'averse qui nous abritons sous un porche en attendant que la pluie cesse. Et la pluie ne va pas cesser.
Vous ne le dites pas dans le
la
livre,
pluie,
ça.
Non,
ça,
je ne le dis pas dans le livre, mais je peux parler
mais
aussi.
Oui, non, non.
la pluie ne va pas cesser, elle va se transformer en orage et puis en trompe d'eau, parce que ce que nous vivons n'est pas une crise conjoncturelle, c'est une crise structurelle des sociétés occidentales, avec trois mutations majeures. C'est d'abord la mutation de la mondialisation, et ce qui menace l'ouvrier français... Ce n'est pas un capitaliste à gros cigares, c'est d'autres ouvriers. Et c'est en cela que la lecture de François Hollande n'est pas bonne. Ce sont d'autres ouvriers brésiliens, indiens, chinois qui veulent vivre comme nous. Ce qui nous menace, c'est l'épuisement des ressources naturelles, puisque dans les 20 ans qui viennent, on va dépenser autant de ressources naturelles qu'on en a dépensé depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et troisièmement, c'est un allongement absolument incroyable de l'espérance de vie, puisque notre espérance de vie augmente d'un an tous les 4 ans, ce qui veut dire que quand nous aurons passé une heure ensemble, notre espérance de vie aura augmenté d'un quart d'heure. Vous ne regrettez donc pas d'être venu. Et donc, cette espérance de vie, elle vient tamponner absolument le modèle social. Et donc, devant ces mutations, il faut dire cela aux Français. Et j'ai regretté que dans la campagne électorale, finalement, ni le candidat Nicolas Sarkozy, ni le candidat François Hollande n'avaient posé cela sur la table. Il faut le dire.
Quand on vous lit, puis quand on connaît votre histoire et votre parcours, on a le sentiment qu'au sein de l'UMP, et avant antérieurement au RPR, il y a bien des cultures ou des... j'emploie pas le terme valeur, parce que c'est un terme un peu valise, justement, où on met plein de choses dedans.
Mais oui, vous avez raison.
Il y a des cultures et des sensibilités différentes. Je vais vous dire, la raison pour laquelle je connais, c'est bien, et la permanence de votre papa, c'est qu'il a été un des premiers parlementaires que j'ai interviewé dans ma première recherche sur l'évolution des mentalités en Maine-et-Loire sur l'avortement. Donc, vous imaginez. Et il y avait donc, en Maine-et-Loire, un autre parlementaire qui s'appelait Jean Foyer, qui était le héros de l'interdiction de l'avortement.
Assis quelque part entre Attila et Genghis Khan.
Oui, exactement. Et votre papa, lui, était aussi député UDR à l'époque. Hein. Enfin, c'était le RPR qui avait été juste fondé. Enfin, encore l'UDR en 1974. Et il a voté la loi. Et vous, quand on voit votre position, par exemple, sur le mariage gay, vous avez un passage tout à fait passionnant. À un moment, vous dites « Je ne comprends pas pourquoi Nicolas Sarkozy fait des dérapages. » Il dit qu'il assume, il faut assumer les souffrances. Et vous dites, je vois pas en quoi le fait d'être homosexuel constitue un malheur à propos du mariage gay. Bon. Comment est-ce que vous pensez que l'UMP va pouvoir, en une certaine façon, adapter son logiciel ou reconstruire son logiciel en intégrant comme ça des valeurs, des cultures composites et des approches composites, des problèmes sociaux, parce que pratiquement, on voit bien que ça fait partie aussi d'un enjeu essentiel qui est celui de votre parti.
Oui, il peut y avoir plusieurs familles
plusieurs maisons dans la maison du père.
C'est ça, voilà, pour reprendre une expression religieuse. Il peut y avoir plusieurs sensibilités. Il ne peut pas y avoir dans une famille politique des chocs frontaux, des véritables fractures. Moi, je dis que ma famille politique doit être un grand parti de centre-droit. Un grand parti de centre-droit, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir à ses côtés un parti, non pas le Front National, mais un parti plus conservateur sur une structuration qui est la structuration bien connue de la CDU-CSU en Allemagne. Donc je crois que ça peut tout à fait s'imaginer. Je crois que ce parti aussi peut dialoguer avec un parti du centre, alors carrément un parti centriste qui nous a cruellement manqué dans l'équipée présidentielle, parce que cette famille centriste, contrairement à ce qu'on pense, elle a un corpus idéologique parfaitement construit.
Démocrate chrétien.
Les valeurs de la démocratie chrétienne, les valeurs du fédéralisme européen, les valeurs de l'atlantisme, et comparé à notre parti de centre-droit, qui est un parti plus jacobin, un parti plus décentralisateur, qui croit à la gestion des territoires très, très décentralisés. Nous croyons, nous, plus à la déconcentration qu'à la décentralisation. Mais je crois qu'il n'y a pas une notion de principe qui peut s'opposer à ce que nous, qui ne sommes pas des fédéralistes européens, nous discutions avec des progressions en matière de politique européenne avec des fédéralistes européens.
Bon. D'accord.
Donc, on peut avoir comme but l'approfondissement de la politique européenne, qui peut faire que nous sommes des compagnons de route, et puis, évidemment, le peuple
mais
tranchera sur le fédéralisme.
Sociales, par exemple, justement, le mariage gay, d'autres questions qui sont des questions liées aux mœurs, par exemple. Est-ce que dans ce parti de centre-droit, tel que vous l'imaginez, il n'y a pas quand même des lignes de fracture?
Alors, bon, vous posez une question à laquelle je veux dire d'abord, moi, je ne mets pas d'exclusive. Je suis une militante du mariage homosexuel. Je ne pense pas pour autant que les gens qui ne partagent pas mon avis sont des homophobes. Je ne supporte pas les discours d'exclusion sur ce sujet. Certains peuvent l'être, bien sûr, mais tous, et bien au contraire, ne le sont pas. Et moi, je fais confiance aux possibilités d'évolution de mon parti, qui rejoindra l'évolution de l'opinion publique sur ces sujets qui sont des sujets de société. Et puisque je suis à Bordeaux, je repose la fameuse question dans l'esprit des lois de Montesquieu. Est-ce que c'est la loi qui fait les mœurs ou les mœurs qui font la loi? Et je crois que c'est évidemment les deux. Regardez ce qui s'est passé. Mon père, qui était un militant, à la suite de ma grand-mère et de mes grands-parents, qui étaient des militants abolitionnistes de la peine de mort au 19e siècle. Maintenant, être contre la peine de mort, ça signifie rien. Mais être militant contre la peine de mort au 19e siècle, c'était autre chose. Bien, finalement, tout le monde est d'accord maintenant avec eux. 65% des Français sont contre la peine de mort. 60% des Français sont maintenant pour le mariage homosexuel.
Vous dites d'ailleurs qu'il y a des jeunes parlementaires UMP, Franck Riester et d'autres, qui sont dans cette position.
De toute façon, on gagnera. De toute façon, on gagnera. Donc, il suffit d'attendre.
Dans votre livre, vous dites que vous êtes clairement pour un front républicain.
Oui.
Et que d'une certaine façon, la stratégie du Nini, ça ne vous convient pas.
Non.
Est-ce vous connaissez l'existence d'un tout petit texte dans les mythologies de Roland Barthes en 1957 où il fustige le ninisme?
Ah,
alors je vous recommande, ça donnera de l'eau à votre moulin.
Et vous, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais compris en politique l'abstention, les gens qui sortent de la salle pour ne pas voter, parce que ça les gêne. Bon, à un moment, on est un homme politique, on choisit. Mes parents étaient tous les deux résistants, parce que vous dites que mon père était résistant. Oui, il était résistant dans le maquis de Champeaux, mais ma mère était dans le maquis de Saint-Marcel. Quand ma grand-mère maternelle était chef syndicale et elle menait la lutte pour l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes dans l'usine d'armement où elle fabriquait des obus, mon autre grand-mère était militante contre la peine de mort, vous pensez que c'est des gens qui se sont dit « on va un petit peu attendre là ce qui va se passer, on va voir si c'est Pétain ou De Gaulle qui va finalement gagner ». Non, on choisit. Toute ma vie, j'ai choisi et je continuerai à choisir.
Merci, madame. Voilà, écoutez, je crois que madame Bachelot est tout à fait disposée à signer votre livre.